tous. Et je vais demander à notre sœur Vénite de rendre grâce. Alors Vénite, en tout cas, prie en créole ou bien au cap-aller français. Hein. Tu parles en français comme tu veux. Sens-toi à l'aise, ma sœur. Je vous invite à vous lever pour que notre sœur Vénite puisse remettre ce moment dans les mains de Dieu et que le Seigneur puisse prendre le contrôle de toutes choses. Amen. Amen. Alléluia. Merci, c'est à moi. Je vous invite à lire avec moi. Bon, je ne les ai pas donnés à Jonas, les textes, mais vous les connaissez. C'est le psaume 103 et le psaume 104. Je vais vous lire un premier passage dans le psaume 103 qui nous parle de l'amour de Dieu et le psaume 104 qui nous parle de la création de Dieu. Le psaume 103 au verset 1 à 5 nous dit « Mon Dieu, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Amen.
Amen.
Amen. Nous lirons une partie du psaume 104 après. Ce premier chant, « Viens adorer, peuple racheté. » Je vais d'abord inviter les hommes à chanter avec nous, donc à chanter avec moi. Une fois les hommes... Les femmes vont rentrer après. Nous aurons une version, sans parole. Et tous ensemble après, nous allons chanter. Amen.
Amen.
Les hommes avec moi. À venir l'adorer ce matin dans sa maison. Viens adorer, peuple racheté.
Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorez Jésus.
Roi de gloire. Encore une fois. Seigneur nous dit aussi dans sa parole, au psaume 104, versets 1 à 5, « Mon âme bénit l'Éternel. » Voyez, mon âme, une deuxième fois, bénit l'Éternel. « Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu t'es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents de ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. » Vous vous rendez compte, bien-aimés ? Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée.
Amen.
Quelle que soit la chose que l'homme va faire, c'est Dieu qui décide. Parce que Dieu est grand. Et nous allons le chanter ce matin avec ce chant. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté. La terre se réjouit. Église de Créteil, réjouissez-vous.
Amen.
Sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir, au son de sa voix. De sa voix, quand Dieu tu es grand, nous chantons, oh Dieu tu es grand, et tous verrons, oh Dieu, combien tu es grand.
Encore une fois, oh Dieu,
oh Dieu. Tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verrons, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge, il règne, les temps sont dans commencement et fin, le Père, le Fils, l'Esprit, la Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verrons, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verrons.
Tu es grand.
Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand.
est à le louer. Si nous venons de le chanter, ô Dieu, tu es grand, chantons-le, proclamons-le. Ô Dieu, tu es grand. Et nous verrons tous combien tu es grand. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent. Je suis en train de lire le psaume 103, versets 17 à 22. Et sa miséricorde pour les enfants de leur enfant, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié en ce matin. L'agneau immolé, il l'a été pour nous, chacun de nous. Et le prochain chant que nous allons prendre, « Tous les anges louent sa sainteté », rappelons-nous, et le chant le dit, « Que les ténèbres ont reculé quand le Fils du Dieu, trois fois saint, a rendu l'âme. » Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, le sang versé pour moi. Il a donné sa vie, bien-aimée. Tellement d'amour, tellement d'amour. Levons-nous et chantons « Tous les anges louent sa sainteté ».
Tous les anges louent sa sainteté.
gloire. Toute la gloire à notre Dieu, vivant, puissant, tout puissant. En Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Amen.
Amen.
Et tous les anges dont nous faisons partie louent sa sainteté aujourd'hui. Et l'univers, j'aime le matin, je vais vous dire quelque chose, mon mari aussi me regarde en souriant. J'aime regarder par la fenêtre, ouvrir la fenêtre même s'il fait froid, même si lui il a froid, hein, pour entendre le chant des oiseaux. Oh, ça me réjouit le cœur, vous ne pouvez pas savoir. Le chant des oiseaux. Et quand vous voyez la création de Dieu, le ciel, les arbres, la fleur qui pousse, le sourire de ma sœur Manuela, quelle grâce. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant. Christ n'est pas resté à la croix. Il Amen. Est parti nous chercher dans le séjour des morts. Et nous sommes ressuscités avec lui.
Amen.
Et un jour, nos yeux le verront. Pas ses yeux charnels, mais des yeux changés, transformés. Amen.
Amen.
Alléluia. Continuez à louer votre Dieu. Notre Dieu, mon Dieu. Continuez à le louer. Amen. Nous allons prendre ce chant de Mon Seigneur, j'aurai la grâce. Plusieurs fois, Rachel, notre sœur, l'a mentionné. La grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce, même dans ce souffle de vie, dans chacune de mes sœurs, chacun de mes frères, si nous sommes présents et présentes ici, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. De Mon Seigneur, j'aurai la grâce.
Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, sa tendre main. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ses gestes des saints. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, du matin, de mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main.
Alléluia. De notre Seigneur, aujourd'hui, nous avons la grâce, cette grâce suprême.
De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, et jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main.
De mon Seigneur,
j'aurai la grâce de chercher encore ses vastes desseins. De mon Seigneur,
j'aurai
la force de marcher encore sur le même chemin. De marcher encore sur le même chemin. De marcher encore sur le même chemin.
De notre Seigneur, nous aurons la force de marcher encore et encore sur le même chemin. Ce chemin que nous avons décidé de suivre par sa grâce. Un jour, il nous a arrêtés sur ce chemin pour nous mener sur celui qui mène à la vie éternelle. Chemin de justice, de vérité, de droiture et d'amour. Amen.
Amen.
Amen. nous aurons la force, bien-aimés, prions les uns pour les autres, de marcher encore et encore sur le même chemin, malgré les difficultés. Il n'y a pas que des difficultés, bien-aimés. Nous ne sommes pas des chrétiens tristes, hein. Nous sommes des chrétiens amen, joyeux. Oh, quand même. Regardez, souriez-moi, bien-aimés. Oh, nous sommes des chrétiens joyeux. Je le dis pour moi d'abord. Pour moi d'abord. Quand nos enfants viennent nous raconter une situation, on a l'impression, on a les épaules qui se courbent. Mais c'est à ce moment-là qu'on doit leur témoigner la joie de Dieu, n'est-ce pas ?
Amen.
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 Nous avons un Dieu joyeux.
Amen.
Il nous fait grâce de marcher encore et encore sur le même chemin. Mmh. Parce que son espérance, elle est vivante.
Amen.
Oh, bien-aimé. Ce que je vous dis, j'essaye de l'appliquer à moi. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. De mon Jésus, j'aurai l'amour. Ça, c'est une certitude. La nuit, le jour et jusqu'au bout du matin, c'est une certitude. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. C'est une certitude. Si nous sommes présents ici ce matin, c'est une grâce. Dieu nous a choisis. Alors en retour, moi la première, glorifions notre Dieu par nos pensées, par nos actes, par nos paroles, par la main que nous allons poser avant de partir tout à l'heure sur l'épaule d'un frère ou d'une sœur pour l'encourager, par un bonjour, avec le sourire, et par un bonjour, oh, bonjour, je m'en vais. Bien-aimé, je l'ai vécu. C'est important la communion fraternelle. Ce n'était pas marqué sur mon papier ce que je vous dis là maintenant. Pardonnez-moi. Je ne suis pas là pour... Non, parce que je m'exhorte moi-même aussi. Si Dieu nous a fait grâce, ce Dieu merveilleux rempli d'amour, pourquoi nous ne pouvons pas faire grâce à notre frère ou à notre sœur ou à celui qui est dehors? La grâce de Dieu coule sur tout un chacun. Ma fille Rebecca, notre fille Rebecca, elle dit... Maman, si Adolf Hitler s'était repenti, eh bien, il serait devenu enfant de Dieu. On ne sait pas. Bon, il s'est suicidé. Bon, allez. Le brigand sur la croix, Dieu lui a fait grâce. Et nous, nous regardons autrui avec dédain, avec hauteur. Mais qui sommes-nous pour le faire? Qui suis-je pour le faire? De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. Cette main étendue à ces milliards et ces milliards d'individus sur la terre, ceux qui sont déjà partis et ceux qui viendront après nous. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir, bien-aimés. Souriez. Oh là là, mon Dieu.
Alléluia.
Merci, messieurs. Merci. Je vais inviter... Elle est où, Manu? Elle est juste devant moi. Manu qui va nous présenter... Allez, Manu, tu as 10 minutes. Top chrono. Non, je t'embête, Manu, je t'embête. Qui va nous présenter des ouvrages pour l'édification.
Bonjour à tous. Alors, ça fait plaisir de vous revoir après beaucoup d'absence. Alors, je serai courte. Alors, je vais vous présenter un livre que j'ai eu l'occasion de lire. Donc, c'est « La santé à la dimension du cœur de Dieu, réflexion de médecin chrétien » de Raymond Bossy. Et il coûte 19,90 €. Donc, alors, pour résumer en quelques lignes ce livre, donc, c'est un médecin chrétien qui a eu ses réflexions sur la maladie, les conséquences de la maladie, la guérison ainsi que la mort. Donc ce livre, il fait écho au dernier message du frère Raymond, si je m'abuse, et du pasteur, sur la maladie, la mort et la guérison par rapport au plan de Dieu. Donc c'est un livre qui est édifiant, bouleversant, et qui bouscule les idées préconçues qu'on a de la maladie, en tant que chrétien, en tant qu'être humain, et la maladie au sens de Dieu. Parce que la maladie découle du péché originel, de la chute de l'homme lors du jardin d'Éden. Mais Dieu veut cette réconciliation avec nous, Donc, c'est un livre qui m'a bouleversé dans le sens où il décrit assez bien ce que la maladie et la guérison est au sens de Dieu. Et ce que nous devons, par nous-mêmes, avoir comme réflexion aussi. Et donc, à travers un diaporama de la définition de la maladie, de ce qu'elle est, les conséquences, la guérison, la non-guérison aussi, parce qu'il nous explique aussi que Dieu ne peut aussi ne pas guérir, mais c'est toujours dans le plan initial de Dieu, son plan pour nous. Parce que n'oublions pas que nous sommes pèlerins sur terre et que Dieu veut que nous soyons acteurs dans son royaume de Dieu. Donc là, c'est un livre percutant dans le sens où c'est un médecin chrétien qui est dans l'action, qui, à travers ses différentes consultations, il voit des personnes chrétiennes ou non, et qu'il voit le processus de guérison ou pas, et ce que l'homme fait de cette guérison. Parce que des fois, on est guéri, mais pas de l'intérieur, et Dieu veut une guérison totale. Donc là, c'est un des livres qui m'a vraiment percutée et bouleversée. Parce que la guérison avec un grand G, selon le royaume de Dieu, est toujours voulu par Dieu, tant individuellement que communautairement, même si cela ne se traduit pas toujours par une guérison terrestre. Et donc là, pour ceux qui ont vécu la mort d'un être cher ou pas, on a une autre perspective de ce qu'est la mort et de ce qu'est la guérison et la non-guérison, et par rapport à nos prières que nous faisons. Donc, je vous le conseille fortement, parce qu'il est vraiment bien. Et donc, après, j'ai différents livres, c'est-à-dire des livres de méditation, parce que nous sommes vers la fin de l'année, et c'est l'occasion d'avoir des pains quotidiens, des livres de méditation. Et donc, là, je vous avais présenté il y a quelques fois, il y a 2 ans de cela, les proverbes. Là, il a les psaumes de Jésus, donc qui a au prix de 18,50 €. Alors, c'est une méditation non datée, comme d'habitude, très intéressant. Et un livre de méditation, alors j'ai pensé aux mamans débordées, avec les papas et les enfants, c'est pas évident. Donc, pour souffler, donc c'est un recueil de méditation non datée aussi, mais qui donne aussi des directives aux mamans, et avec les versets de la Bible, c'est très intéressant aussi. Et le dernier livre, c'est 365 jours de déclarations et de prières inspirées. Donc c'est le pasteur Jérémy Sourdril, pour ceux qui le connaissent, qui a fait ce recueil de prières. Donc c'est non daté aussi, mais ce sont des points d'ancrée pour pouvoir orienter sa prière plus spécialement. Donc il l'a fait. Donc la seule chose que je dirais pour l'avoir, c'est pas évident parce qu'il est en rupture de stock. J'ai dû aller sur le site même de son éditeur. Et donc pour vous prévenir que les frais de port sont un petit peu à peu près 5 € ou 6 €, et il est à 24,90 €. Donc je vous le conseille aussi parce que il est très bien écrit. Non daté aussi, et il est très bien. Donc, voilà. Donc, alors, pour ceux qui souhaitent des recueils de méditation ou de pain quotidien, je me tiens à votre disposition pour les commandes, si vous le souhaitez. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et une très bonne lecture sous le regard de Dieu.
Merci à Manu. Manu est là, pardon. Manu, c'est affectif. C'est parce que je t'aime, ma sœur Manu, voilà. Merci à notre sœur pour ses différents ouvrages, et puis rapprochez-vous d'elle, effectivement. Mais on sait qu'au-dessus de tout ça, c'est la parole de Dieu, la Bible, qui est notre livre. Amen. C'est la parole de Dieu, elle est arrivée jusqu'à nous, et c'est une grâce. On doit l'examiner à chaque instant de notre vie, face à des joies, face à nos peines. Et elle nous mène sur le bon chemin, comme nous l'avons chanté aussi, c'est la grâce de Dieu, dans sa parole. Elle est notre réconfort, cette parole. Elle est notre secours. Elle est notre amie quand nous sommes seuls, n'est-ce pas? La parole de Dieu, c'est tout ça. Parce qu'elle est Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé? Amen. Et je vais inviter notre frère Serge à venir distiller ce que Dieu lui a mis sur le cœur.
Bonjour bien-aimés, nous bénissons Dieu pour le ministère de notre sœur Manuela. Le Seigneur souhaite, et c'est à peu près le propos aussi de ce message, que chacun de nous mette son talent et son don au service de l'Église. Elle nous fait grâce de ses lectures pour que nous puissions y trouver des outils d'encouragement. Et je pense que c'est utile. Parce que la foi se nourrit de la parole de Dieu. Et Dieu, dans l'épître aux Éphésiens, nous dit que Dieu a donné à l'Église des ministères. Et ceux qui écrivent font partie de ce que Dieu nous donne. Pour que nous puissions être enrichis sur des thèmes précis, que nous n'avons pas les compétences ni le temps de fouiller, il les fouille pour nous et nous donne des outils intéressants. Alors n'hésitez pas à constituer une bibliothèque pour vous enrichir. Merci Manuela. Merci aussi à notre sœur Patricia pour cette présidence de culte. Là aussi, c'est un service à la gloire de Dieu. Elle sert le Seigneur en nous conduisant dans ce culte de dimanche matin avec toute l'équipe, avec Esther et Lovely. Merci aussi à Eric et à Willy, qui, avec le don que Dieu leur a donné pour les instruments, nous encourage à chanter en étant baignés dans l'harmonie des sons, des instruments. Pour ceux qui le savent, nous avons vécu une période où nous n'avions pas d'instrumentistes. C'était compliqué. Et donc nous sommes reconnaissants aujourd'hui que les frères aient repris leur ministère et qu'ils servent à la gloire de Dieu. Merci aussi à l'équipe d'Éric Messois qui, dimanche après dimanche, les uns après les autres, sont là derrière l'ordinateur avec le Zoom et avec aussi le YouTube. Et ce matin, c'est Jonas et Jessie qui sont de service. Ça aussi, c'est pour la gloire de Dieu. Ils sont là au service pour la gloire de Dieu. Merci à celles ou ceux qui ont fait le ménage. Imaginez-vous que vous entriez dans une église et qu'elle soit sale. Heureusement que ça n'arrive pas. Mais là aussi, c'est un service à la gloire de Dieu. Et nous voulons bénir celles et ceux qui ont fait le ménage pour nous cette semaine. Autant de services, autant de dons de soi pour la communauté. Ce matin, j'aimerais nous entretenir sur le thème « Sauver pour servir ». Sauver pour servir. Nous allons faire notre lecture dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. C'est l'une des épîtres dont on dit une épître générale, parce que selon ce que nous avons reçu du Seigneur, c'est une épître qui n'est pas signée par l'auteur comme les autres épîtres. On a, à la fin de cette épître, une salutation de l'apôtre Paul. Mais tous les spécialistes disent que cette épître, elle est générale parce qu'on ne sait pas avec certitude si c'est Paul ou si c'est Pierre qui l'a écrit. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est une épître inspirée de Dieu et que Dieu l'a donnée à l'Église pour que l'Église soit édifiée avec assurance. Elle est modélée un peu dans la culture juive. Parce que beaucoup de thématiques qui sont expliquées, données dans cette épître aux Hébreux, sont des thématiques qui sont liées au judaïsme, donc à l'Ancien Testament, sous l'éclairage nouveau du ministère de Jésus-Christ. Et donc, désormais, cette épître confirme ce que Jésus a fait. L'Ancien Testament doit être lu à la lumière de Jésus-Christ. L'Ancien Testament n'est pas dépassé, non. mais il doit être lu désormais à la lumière du ministère du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons encore ce livre dont parlait tout à l'heure Patricia, la Bible. Combien de livres contient la Bible ? 66 livres. Combien dans l'Ancien Testament ? 39 et 27 dans le Nouveau. Et c'est l'ensemble des 66 livres qui forment la Bible, Ancien et Nouvelle Alliance. Et le tout est noué par la personne du Fils de Dieu. Il est au centre de l'Ancien et du Nouveau. C'est lui qui pouvait dire du ministère de Jean-Baptiste, il dit c'est le dernier de l'Ancienne Alliance. Mais c'est le premier de la Nouvelle Alliance. Parce que Jean-Baptiste ferme la période de l'Ancienne Alliance et il inaugure celle de la Nouvelle Alliance en disant « Voici l'agneau de Dieu, celui qui était promis, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, Jésus-Christ. » Et donc cette épître nous instruit. Et ce matin, je voulais que nous puissions regarder cette instruction à la lumière du service de Dieu. Je fais la lecture dans une version qui est un peu une version combinée, quelque chose que j'aime faire pour me permettre de mieux comprendre. Nous sommes des privilégiés. Dieu nous donne plusieurs versions. Dans ces temps qui sont les temps les nôtres, Dieu donne à l'Église des traducteurs. C'est des frères et des sœurs qui font des études dans les langues et dans tout ce qui est la syntaxe pour nous traduire les textes bibliques, pour que nous ayons les textes bibliques à porter, mais bien plus pour que nous puissions les comprendre. Et chacune des traductions est faite dans un objectif bien précis. Quand vous prenez la traduction, ce qu'on appelle le français courant, elle est faite pour que quelqu'un qui a un niveau de français basique puisse recevoir, comprendre et lire la parole de Dieu. Et moi, souvent, je visite au moins 3 versions et je m'enrichis parfois des subtilités de traduction parce que vous savez qu'un mot peut être riche dans sa sémantique et le traduit parfois donne un horizon un peu plus large. Donc cette version-là, c'est un combiné de la version 8 secondes et de la version semeur. Je fais la lecture à partir du verset 1. Que l'affection fraternelle demeure. N'oubliez pas l'hospitalité. Il en est qui, en les aissant, ont à leur insu logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous êtes dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et l'élu conjugal, exemple de souillure. Dieu jugera ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle et à l'adultère. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car il a dit lui-même, « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas peur. » Que peut me faire un être humain ? Verset 7. « Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont dit la parole de Dieu. Regardez l'issue de leur vie et imitez leur foi. » Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes d'enseignements étrangers. Et là, je saute volontairement le verset 10 et 11 et je reviens au verset 12. C'est pourquoi Jésus aussi, pour consacrer le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte de la ville. Sortons donc hors du camp pour aller à lui, emportant son humiliation. Car nous n'avons pas ici de cité qui demeure, mais nous cherchons celle qui est à venir. Verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. Et n'oublions pas de pratiquer la bienveillance, la bienfaisance du moins, et la libéralité, qui est traduit aussi dans certaines versions par solidarité, entraide. Car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Bien-aimés, le thème du service. Le thème du service. Je voudrais voir quelques personnages avec vous. Depuis l'Ancien, et nous verrons celui qui est central, Jésus, dont le service que ceux-ci ont pu soit faire ou les proclamations assez fortes qu'ils ont faites sur la question du service. L'exemple de Josué. Vas-y, s'il te plaît. Sauver pour servir. Encore. Voilà. L'exemple de Josué. L'engagement de Josué à servir. Je vous ai déjà, dans une prédication, longuement parlé de la vie de ce serviteur de Dieu. De comment il a conduit le peuple de Dieu après que le Seigneur ait repris son mentor, Moïse. C'est Josué qui a eu cette tâche, qui a fait entrer le peuple de Dieu là où coule le lait et le miel, qui a permis au peuple de Dieu d'hériter de cette promesse que Dieu avait faite à Abraham. Quand Dieu a sorti le peuple de l'esclavage, Moïse l'a conduit, et à l'orée de cette terre promise, c'est à Josué. Le chapitre 24 est au terme du ministère de cet homme de Dieu. Au terme de son ministère, il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quel que soit le choix que vous allez faire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans son rôle de père, Josué avait engagé sa famille à servir, comme lui, l'Éternel et non les faux dieux. Son appel à être en cela, à être imité. Il invitait les Israélites, vu que cette promesse de Dieu a été accomplie avec succès, il les invitait à ne pas oublier qui les a conduits jusque-là. Et le peuple va dire à plusieurs reprises, nous aussi, nous voulons servir l'Éternel. Et Josué va dire, vous êtes témoins. Vous êtes témoins contre vous-même que vous avez décidé de servir l'Éternel. Par contre, sachez que l'Éternel est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux dans le sens où l'Éternel, il sait mieux que quiconque les choses qui vont venir. C'est lui qui met devant nous, comme il le dit, le bonheur. Mais il sait aussi que le malheur peut être là. Mais il encourage Israël à choisir le chemin du bonheur. Et des fois, en choisissant les faux dieux, Dieu est jaloux parce que il dit, comment mes enfants ne peuvent-ils pas me faire confiance alors que je sais le chemin, le meilleur pour eux. Ils se détournent de moi. Et c'est de là que vient que Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux parce qu'il pleure dans son cœur quand son peuple ne choisit pas le chemin qu'il lui a dressé devant lui. Et Josué lui dit, vous êtes entouré par des faux dieux. Ces peuples dans lesquels Dieu vous a installés ont des dieux, mais ce ne sont pas des dieux. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel des armées. Le credo d'Israël, Deutéronome chapitre 6, verset 4, dit, car l'Éternel est un. L'Éternel est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Le psalmiste va dire, oui, quelqu'un peut dire, il a un Dieu, mais en fait, il se trompe lui-même, parce que ces dieux-là n'existent pas. Et cette même épître aux Hébreux va dire, parfois, c'est les démons, c'est les anges de malheur qui prennent des formes divines et qui se font passer pour des dieux. C'est des fous. C'est des créatures, tout comme nous. Les anges sont créatures de Dieu et ils se déguisent en anges de lumière pour séduire les hommes. Que peut apporter une créature à une autre créature? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et on voit bien que le service de Josué a été vraiment un service avec engagement. Tout n'a pas été simple, tout n'a pas été facile. Mais il s'est souvenu tout le long de son ministère de ce premier chapitre de Josué chapitre 1, un chapitre très fort que vous pouvez relire chez vous, où le Seigneur lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le nuit et jour et tu auras du succès dans tes entreprises. Ce n'est pas une formule magique. Hein? Non, ça ne veut pas dire que tout va aller comme sur des roulettes. Ça veut dire que quels que soient les événements, tu pourras compter sur moi, Josué. Mais reste fidèle, ne t'éloigne pas. N'aie pas peur. Parfois, dans notre engagement pour le Seigneur, les circonstances, les événements, les difficultés peut nous faire douter du chemin que le Seigneur nous montre. Et nous sommes des humains. Et en tant qu'humains, c'est vrai que cette faiblesse, elle est là. De dire, oula, Seigneur, est-ce que tu ne te serais pas trompé par hasard? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon de faire que tu ne m'as pas bien expliqué? Hébreux, chapitre 13, verset 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole ne change jamais. Ce qu'il a dit hier vaut pour aujourd'hui et vaut pour demain. Mais dans chacun de nos contextes, nous devons les réactualiser pour nous. Voici un exemple de quelqu'un qui a servi Dieu. Jusqu'au bout, il a servi son Dieu. Il est resté fidèle. Et il a fait en sorte que sa famille soit dans ce service avec lui. Est-ce qu'après lui, ses enfants ont servi Dieu? Je vous laisse regarder les têtes brûlées pour vous le dire. Mais en tout cas, il a fait sa part. Jusqu'à ce que Dieu le reprenne, il a veillé à communiquer, à servir son Dieu avec zèle et amour. Un deuxième exemple, encore dans l'Ancien Testament, l'exemple de David. David, dont on dit souvent l'homme selon le cœur de Dieu. Le cœur de David. Il dit dans le 2 Samuel, verset, chapitre 24, verset 18 et 25, « Je ne refierai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » David dit cela alors que il devait offrir, comme la tradition le demandait dans l'Ancien Testament, des offrandes, des sacrifices. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient des rituels dans lesquels on offrait un certain nombre d'animaux en fonction du péché, ou on offrait un certain nombre d'aliments en fonction de l'offrande de bonne odeur qu'on voulait faire à Dieu. Et David se trouvait dans une situation où il voulait offrir, et quelqu'un lui a offert des animaux et lui a dit, prends-les gratuitement puisque tu veux l'offrir à ton Dieu. Et lui dit, non, t'es gentil, mais moi, je veux payer pour ce que je vais offrir à mon Dieu. Je veux que ce que j'offre à mon Dieu me coûte quelque chose. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Servir Dieu, ça coûte quelque chose d'être bien aimé. Aimer Dieu, ça coûte quelque chose. Il dit que celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il dit, car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera, que ce soit dans cette vie maintenant ou dans la vie éternelle. Il dit, car le grain de blé qui tombe en terre, s'il ne meurt, il ne peut pas germer. Aimer, ça coûte quelque chose. L'amour coûte toujours quelque chose. Mais l'amour, le prix qu'on paye par l'amour, c'est un prix qui n'a pas de prix. C'est par amour que le Christ a donné sa vie pour nous. Et j'en parlerai tout à l'heure. Et David dit, non, je ne veux pas prendre quelque chose qui me coûte rien, l'offrir à Dieu, non. Pourquoi David a été appelé régulièrement l'homme selon le cœur de Dieu, selon 1 Samuel chapitre 13, verset 14? C'est pas qu'il ait tout fait bien. Sa vie est remplie d'épisodes ou parfois très crash. Tu te dis, oula, quand même, David, j'aurais pas fait comme toi. J'en sais rien. C'est pas dit que toutes ses fautes ont été excusées. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que David était un homme. Quand Dieu allait le chercher, vous savez à quel âge Dieu allait chercher David? Il était très jeune. Et quand le prophète est allé chercher un des fils d'Isaïe pour remplacer le roi Saül, le père, quand il a vu ce prophète qui a dit, ah, Dieu m'a envoyé pour un de tes fils comme roi, il dit, ah, je sais de qui il s'agit. Parce qu'il y avait un de ses fils qui était le profil d'un roi, voilà. Et le prophète dit, non, c'est pas celui-là. Il fait venir tous ses fils. Il dit, non, mais il n'y a aucun de tes fils, c'est pas celui-là. Il dit, ça peut pas être David. Il dit, va le chercher. Va le chercher. Il n'avait pas le profil du métier. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. C'est ça que Dieu fait. Dieu nous aime tels que nous sommes. Et quand il nous choisit pour ce que nous sommes. Pas pour ce que les gens pensent que nous sommes. Le prophète dira, les hommes regardent à ce qui frappe le visage, mais Dieu regarde au cœur. Dieu va au-delà de l'apparence pour voir ce que nous sommes en réalité. C'est pour cela qu'il peut dire, tu es une créature si merveilleuse. Tu es une créature si merveilleuse. Et David, donc, était de ces hommes-là qui savaient cette relation avec Dieu. David a toujours chéri sa relation avec Dieu. Et même dans les moments les plus sombres de sa vie, lorsque Dieu lui indiquait clairement qu'il avait fait une faute, David était humble de reconnaître qu'il avait fauté. Et de demander pardon à Dieu. Parfois, il prenait le temps de jeûne pour se rassurer que Dieu lui avait tout pardonné. Il a écrit des psaumes tellement poignants. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Sonde-moi, sonde-moi. Va sonder au plus profond de moi et vois si je n'ai pas un péché caché. Montre-le-moi pour que je te demande pardon. C'est son humilité. C'est sa capacité à reconnaître ses fautes. Mais c'est aussi sa témérité, son caractère téméraire. Quand Dieu lui a donné un objectif, il s'y attache jusqu'au bout. Il a servi son Dieu. Il a demandé une chose à Dieu que Dieu a refusé. Il dit, je veux bâtir un temple pour toi. Dieu dit, non, là, tu ne pourras pas. Parce que tes mains, il y a du sang. Ce n'est pas le sang des combats pour lesquels il a libéré le peuple de Dieu. C'est le sang du mari de Bathsheba. C'est le sang du riz. Il y a un sang sur ta main qui ne me permet pas de te faire construire mon temple. Il dit, qu'à cela ne tienne. Mais est-ce que je peux tout préparer pour que mon fils... Il dit, ah bah vas-y, prépare tout. Et la Bible dit que David a préparé tout ce qu'il fallait pour que quand Salomon serait prêt, qu'il ait tout le matériel nécessaire pour construire la maison de l'Éternel. Et il a servi son Dieu. Le cœur de David est un cœur qui était au service de Dieu. C'est pour ça que Dieu va lui faire cette grande promesse. La postérité de David, c'est dans ta postérité que le Messie sera aligné. Fils de David. Et Jésus est dans cette postérité-là, à cause de ce cœur, qui montre que Dieu sait que nous sommes des pécheurs. Mais ce qui touche particulièrement Dieu, c'est quand un pécheur sait ce qu'il est et s'attache à son Dieu, même quand il n'est pas en conformité avec son Dieu et qu'il revient à son Dieu. Et c'est ça que Dieu reprochait parfois au peuple d'Israël. Tu ne sais pas revenir à moi quand tu t'es détourné. Voici un autre exemple de service. Quelqu'un qui a servi Dieu dans des hautes fonctions, mais qui a servi son Dieu avec humilité. Toujours attaché à la parole de Dieu. Et enfin, l'exemple suprême. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus a été ce serviteur. Vous savez, il y a ce chant, roi serviteur. Dans cette période où Jésus apparaît, roi serviteur, le premier volet de cette expression était juste, c'était des rois. Le deuxième volet de l'expression roi serviteur, le serviteur était juste un... C'était une façon de dire les choses sans que ce soit vrai. Parce que ces rois-là n'étaient pas vraiment au service de leur peuple. Oui, ils étaient au service dans le sens où ils prenaient soin du peuple, où ils étaient... Mais la façon dont Jésus va le vivre... En tout cas, dans cette période, au premier siècle, aucun roi ne l'avait vécu comme ça. C'est pour ça que beaucoup ont dit que t'es pas un vrai roi, franchement. Un roi qui est comme ça, on en a vu très rare. On en a presque jamais vu. Roi serviteur. Il a réalisé à tout point de vue cette prophétie-là. Il dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sait. Je suis au milieu de vous comme celui qui sait. Pensez-vous que Jésus n'aurait pas eu les moyens de se bâtir un beau château? Pensez-vous que Jésus n'aurait pas eu les moyens de se recruter une belle armée? Pensez-vous que Jésus n'aurait pas eu les moyens de faire tout ce que les empereurs font? Non. C'était pas pour ça qu'il était venu. Puisque ça, il a déjà. Il est fils de Dieu en puissance. Il est Dieu. Tout lui est soumis. Il est tout puissant. Tout lui appartient. Et dans l'épître aux Philippiens, justement, nous montre qu'il a laissé, il a volontairement mis ça de côté pour venir nous servir. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. À plusieurs reprises, il montrera à ses disciples pendant ces 3 années de ministère terrestre qu'il était là pour servir. Il marchait avec eux, il dormait avec eux, il mangeait avec eux, il faisait les courses avec eux. Et même qu'il y a eu une polémique au sein des apôtres pour savoir qui serait le plus grand, Jésus dira en Marc chapitre 10, verset 43-44, « Celui qui voudra devenir grand parmi vous prendra la place du serviteur, d'un serviteur. Et s'il veut être à la tête des autres, qu'il soit prêt à être l'esclave de tous. » Il dit car dans le royaume des hommes, celui qui est chef, il gouverne, il domine sur tout le monde. Mais dans le royaume de Dieu, celui qui est chef, c'est celui qui sait. Des fois, je m'assois et je me dis, si c'est vrai que Dieu existe et qu'il est créateur de tout l'univers et que malgré ça, Dieu dit qu'il sait, la Bible dit qu'il s'intéresse à moi, qui suis-je, franchement? Dans l'échelle de l'univers, l'être humain est... Nous sommes une toute petite graines de poussière à l'échelle de l'univers. Et pourtant, la Bible dit que Dieu s'intéresse à chacun de nous, à chacune de nos vies. Et il a créé tout l'univers, et tout l'univers lui appartient. Et ce Dieu-là s'intéresse à toi, à moi. Et il nous sait. Et parfois, dans nos prières, on lui donne des ordres à ce Dieu-là, dans nos prières. Seigneur, tu dois faire ça. Wow. Tu sais de qui il s'agit? Il s'agit du Dieu créateur, du ciel et de la terre, de tout l'univers. Et pourtant, même ça, parfois, il te répond positivement, il te le donne. Parce qu'il est dans la position du serviteur. Ce Dieu majestueux, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu éternel est dans la position du serviteur. Roi serviteur. Jésus dira à ses disciples, n'est-ce pas que je suis le Fils de Dieu? N'est-ce pas que je suis votre responsable? Et pourtant, c'est moi qui vous sers. Et ce soir-là, à la veille de sa mort, il va laver les pieds des disciples. Dans la tradition des Juifs, celui qui fait ça, c'est la servante ou le serviteur qui est à la maison, qui lave les pieds des propriétaires et de ses invités. Donc celui qui lave les pieds, c'est plutôt celui qui est dans la position du serviteur. C'est jamais le chef de la maison qui lave les pieds. Et là, Jésus descend, et c'est pour ça que Pierre dit, mais non, dans notre tradition, c'est pas possible que ce soit toi qui le fasse. C'est nous qui devons le faire pour toi. Il dit, non, je vous montre que ce que je dis, je le fais aussi. Je suis parmi vous comme celui qui sait. Cette parole est une parole révolutionnaire, comme ce que je viens de vous expliquer à cette période de l'histoire. Elle est si importante pour le peuple de la Nouvelle Alliance. Elle est motivée par l'exemple de Jésus, qui s'est abaissé au rang de serviteur pour que nous ayons en nous les mêmes sentiments que lui. Il nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces, c'est-à-dire que nous devenions à notre tour serviteurs et servants de Dieu et de notre prochain. Philippiens chapitre 2 dira « Ayez en vous les sentiments !» C'est-à-dire la motivation. Ayez en vous les bonnes motivations qui étaient en Christ. Lui, qui est Dieu, il n'a pas regardé à sa qualité de Dieu. Il a mis ça de côté pour un temps et il est venu pour nous servir. Nous servir jusqu'à la pire des façons en se livrant à la croix pour nous. Bien-aimés, nous sommes invités au service de Dieu. Vas-y, s'il te plaît. C'est la vocation du peuple de Dieu de servir l'Éternel avec joie. La joie ici n'est pas d'abord une joie émotion. Elle est une joie reconnaissance. De servir Dieu avec reconnaissance. Vous savez, être reconnaissant à quelqu'un, c'est avoir au-dedans de soi la conviction que cette personne nous a fait du bien. Est-ce que Dieu nous a fait du bien, mes frères, mes sœurs? Est-ce que Dieu t'a fait du bien? Est-ce que Dieu te fait du bien, mon frère, ma sœur? Si c'est vrai, sers ton Dieu avec reconnaissance. L'apôtre Jean pouvait dire dans l'une des épîtres, il dit, tu crois que Dieu existe? Bah, tu fais bien, mais sache aussi que le diable et les démons savent que Dieu existe. Et il pose la question, quelle est la différence entre le fait que toi tu saches que Dieu existe et que le diable et les démons sachent que Dieu existe? Quelle est la différence? Il dit, la différence, c'est que toi, en le sachant, tu dois être reconnaissant à ton Dieu et le servir. Et faire sa volonté. C'est en cela que tu montres que tu connais Dieu différemment que le diable et ses démons. Parce que eux, ils savent que Dieu existe, mais ils ont pris volontairement sur eux de ne plus obéir à Dieu. Créatures qu'ils étaient, ils se sont rebellés contre les créateurs et ils sont tombés dans la rébellion. Et désormais, ils attirent des hommes et des femmes dans cette même rébellion. La Bible dit que le diable est descendu avec une seule volonté. C'est de dire, puisque je ne veux plus accéder à ça, bah personne n'y accédera. Mais il s'est trompé. Parce que ce n'est pas lui le créateur. Ce n'est pas lui qui décide. Celui qui décide s'appelle l'Éternel des armées. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. L'étoile brillante du matin. Le merveilleux conseiller. Le Père éternel. Aimons servir notre Dieu. C'est la vocation, c'est notre vocation de servir Dieu. Le service de Dieu a deux aspects prioritaires. Servir Dieu, dans le sens de faire les œuvres de Dieu. Et les œuvres de Dieu, c'est de prendre soin de l'Église, bien-aimé. Vous savez, personne d'autre ne prendra soin de l'Église que les chrétiens. Ce n'est pas l'État qui va prendre soin de l'Église. Ce n'est pas l'incroyant qui va prendre soin de l'Église. C'est même pas le religieux qui va prendre soin de l'Église. C'est les fils et les filles de Dieu. C'est les enfants de Dieu qui sont appelés à servir pour que l'Église continue de faire ce pour lequel Dieu l'a inventé. Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, chapitre 4, l'apôtre Paul dit, c'est à moi que ce mystère a été révélé. Et mon rôle, c'est de vous le révéler maintenant. Dans les temps qui sont les derniers, Dieu a décidé de se révéler au travers de l'Église. Dans les temps qui sont les derniers, Dieu a décidé de se révéler au travers de l'Église. Et il va le faire par l'Église pour que le monde visible et invisible connaisse la volonté de Dieu. C'est la mission de l'Église. De faire en sorte que Dieu continue d'être connu. C'est pour ça que nous sommes là quand nous sommes chrétiens. Sauvés pour servir. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 2000 ans d'histoire d'église. Il y a 2000 ans où des chrétiens et des chrétiennes n'ont cessé de faire ça. Ça fait 2000 ans que génération après génération, des chrétiens et des chrétiennes prennent soin de l'église pour qu'il soit transmis à la génération d'après jusqu'au retour du Christ. C'est notre tour à nous. C'est à notre génération de tenir le flambeau, de veiller sur cette maison de Dieu et de faire en sorte que tant que Jésus n'est pas de retour, que cette église reste une église vivante. Amen. C'est à toi, c'est à moi de le faire. C'est pas à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes ses co-héritiers. Nous sommes co-héritiers avec le Christ. L'héritier, dans la tradition juive, c'est celui à qui le Père va transmettre. Pas d'abord les biens matériels. Le credo. Le credo, c'est il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel est Dieu. C'est-à-dire transmettre le fait que Dieu existe et qu'il mérite d'être adoré. Il dit, ce que je t'ai inscrit là, apprends-le à tes enfants. Pour qu'à le tour, ils puissent l'apprendre à leurs enfants. Que ce soit une chaîne qui ne soit pas interrompue jusqu'au retour du Christ. C'est le premier héritage qu'un juif lègue à son enfant. Le fait que Dieu existe et qu'il mérite d'être adoré. C'est quoi le premier commandement? Comment? J'entends rien du tout. C'est ça? C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu? Vous êtes sûr? Je ne suis pas aussi sûr que vous. Deutéronome chapitre ou Exode? Chapitre 20. Prenons Exode chapitre 20 alors. Le texte, il est là, on ne va pas chercher à l'inventer puisqu'il existe le texte. Exode chapitre 20. C'est quoi le premier commandement? Alors, si quelqu'un a sa Bible, qui peut lire avec nous? Pas tous ensemble. Vas-y, Georges 2. Voilà. Ok. C'est ça le premier commandement. Verset 1, il est dit, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. » Donc le premier commandement, c'est « N'aura pas d'autre Dieu devant ma face. » Et ça fait écho au credo. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est l'Éternel, notre Dieu. C'est ça le premier commandement. Jésus va le nouer, et vous avez raison, Jésus va le nouer dans un seul commandement. Il dira, tout ce commandement, tout l'Ancien Testament se résume dans un commandement unique. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit ce commandement-là, nous, tous les commandements de Dieu. Mais pour les nouer, il faut les connaître, n'est-ce pas? Pour les nouer, il faut les connaître. Si on ne les connaît pas, on les noue pas très bien. Et donc, pour terminer, bien-aimés, nous sommes invités à aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous. Servir, c'est ça. Servir Dieu, c'est ça. Et où est-ce que cette parole peut être redite? Où est-ce que cette parole peut être annoncée? C'est partout. Mais de façon spécifique, c'est l'Église. L'Église qui n'est pas d'abord un bâtiment, même si nous en avons besoin. L'Église, c'est d'abord le rassemblement des fils et des filles de Dieu. Mais ils ont besoin d'un endroit pour se rassembler. Ils ont besoin d'une organisation pour faire l'œuvre de Dieu. C'est ça l'Église. Est-ce que Dieu t'a fait du bien, mon frère? Est-ce que Dieu t'a fait du bien, ma sœur? Viens servir ton Dieu. Viens servir ton Dieu. Viens prendre ta part dans ce service de Dieu à l'Église. Servir Dieu, c'est son prochain. Et quelqu'un dit, ton premier prochain, si tu es en couple, c'est ta femme. Quelqu'un dit, ton premier prochain, si tu es parent, c'est tes enfants. Quelqu'un dit, ton premier prochain, si tu es né dans une famille où tu as des frères et sœurs, ce sont tes frères et tes sœurs. Mais Jésus va encore corser cela. Il va dire, ton prochain, c'est pas juste ceux avec qui tu as une filiation. C'est tout être humain qui a besoin de toi à un moment donné. C'est tout être humain qui a besoin de toi à un moment donné. C'est pour ça qu'il dit, soyez bons envers tous. soyez bons envers tous. Et il dira dans ces versets, vas-y s'il te plaît, que nous reprenons, Hébreux chapitre 13, verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. » C'est pour cela que quand nos bien-aimés président le culte, ils aiment qu'on puisse être vivant dans le culte, que ce soit Eric, que ce soit Patricia, que ce soit quelqu'un d'autre, parce que le culte, c'est pas un spectacle. Le président de culte n'est pas là pour faire un spectacle. Il n'est pas là juste pour faire une animation, pour chauffer la salle. Non, il est là pour donner l'opportunité aux enfants de Dieu de dire publiquement leur reconnaissance à Dieu. Que nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange qui est le fruit de nos lèvres. L'Épître aux Corinthiens, aux Romains dira, oui, on accepte Dieu dans notre cœur. C'est intime. Mais on a besoin de le dire. Pour le témoigner. Pour le témoigner, on a besoin de le dire. Oui, tu reconnais, tu es reconnaissant à Dieu dans ton cœur. Mais dis-le, frère, dis-le, sœur. Et un espace pour le dire, bah, c'est le culte du dimanche matin. C'est le culte du dimanche matin. Tu as cet espace pour dire ta reconnaissance à ton Dieu. Vous savez, dire ma reconnaissance à Dieu, c'est dire que je l'aime. Dire ma reconnaissance à Dieu au sein d'une assemblée, c'est dire que je l'aime. Peu importe le nombre de mots que je sors, ce n'est pas la longueur de notre prière qui est importante. C'est les mots qui sortent de mon cœur que je veux dire à Dieu dans l'assemblée des saints. Le fruit de vos lèvres, la louange à Dieu. Seigneur, je te bénis, je te remercie pour cette semaine. La preuve, je suis là ce dimanche matin, c'est ta grâce. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour mon fils que tu as gardé. Vous savez, on sort et on rentre et on croit que c'est vrai que tous les jours on va rentrer chez nous. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous porte, frère. C'est la grâce de Dieu. Quand souvent on dit dans nos prières, je ne suis pas meilleur que celui que tu as rappelé hier, ça doit nous rester petit. Hein. Pensez que les gens qui sont sortis, qui ne sont pas rentrés chez eux, ont moins de mérite que nous. Je ne suis pas sûr. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour est une grâce nouvelle de Dieu. Car les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia! Elle se renouvelle chaque matin. C'est pour ça que chaque matin, remercie ton Dieu en te levant. Seigneur, merci de ce réveil matinal. Merci pour Caroline, mon épouse, pour Othniel, pour Élie, pour Joshua. Cite les noms des gens qui sont dans ta maison et remercie ton Dieu. Le fruit de vos lèvres, la reconnaissance de Dieu. Et enfin, ce service passe aussi par le don matériel, bien-aimé. Donner pour l'œuvre de Dieu, c'est aussi servir Dieu. De nombreux passages de la Bible disent de donner, ou plus généralement de faire le bien, de faire du bien. Il est recommandé d'être libéral, prompt à donner et riche en bonnes œuvres. D'être les premiers dans les bonnes œuvres, d'être de bons gérants de la grâce variée de Dieu. Vas-y, s'il te plaît. Mais avant même ces motifs de donner, il y en a un autre qui est plus important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une synthèse ce que je viens de dire. Il faut d'abord que Dieu ait sa part de louange et d'adoration dans ton cœur. Ce que Dieu veut d'abord, c'est pas ce que nous donnons, c'est ce que nous pensons de lui, ce que nous disons de lui, ce que nous faisons avec lui. C'est ça qui l'intéresse d'abord. Vous savez, Émile a cité ce texte le dimanche dernier, Matthieu 7, ou au jugement dernier, certains diront, mais on a fait ça pour toi, hein, on a fait tel travail pour toi, on a prophétisé en ton nom, on a servi Dieu. Je vous connais pas. Il s'agit pas d'abord de ce que vous avez fait pour moi. Il s'agit de ce que vous êtes pour moi. Ce que j'attends de vous, c'est que vous soyez mes fils et mes filles. Et que vous viviez comme des fils et des filles de Dieu. Mais bien sûr, Si nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes ses co-héritiers, nous devons prendre soin de sa maison. Et prendre soin de sa maison, c'est participer à cette maison-là. Et participer, ça passe aussi par le don. Nous, les chrétiens évangéliques traditionnels, on a du mal avec cette question de don. Vas-y, s'il te plaît. Mais en fait, ça fait partie de l'enseignement chrétien, de servir Dieu. Dans l'Ancien Testament, ce don se résumait dans deux grandes catégories. La dîme, qui était la dixième partie d'un revenu. Ce revenu était agraire, pastoral ou financier. Et puis, il y avait les offrandes. Et il y avait de multitudes d'offrandes que les Juifs étaient appelés à faire pour être reconnaissants à Dieu. Mais c'était des offrandes volontaires. Dans la période chrétienne, tous ces principes continuent d'être en vigueur, mais il y a un principe qui les couronne. C'est le principe de la libéralité. Donner ne doit plus être avec contrainte. Si tu donnes 10% de ton revenu avec contrainte, si tu fais une offrande avec contrainte, tout à l'heure tu as dit que tu es reconnaissant à ton Dieu. Pourquoi tu fais ces choses avec contrainte alors, si tu es reconnaissant à ton Dieu? La Bible dit que lui n'a pas calculé, il s'est donné entier pour nous. Il nous demande juste de participer pour que cette œuvre continue. Moi, je suis au bénéfice de chrétiens et d'églises qui m'ont envoyé à l'évangile. Et je dis merci Seigneur, parce qu'il y a eu ces chrétiens-là, parce qu'il y a eu cette église-là. Mais c'est des hommes et des femmes qui ont contribué à cette église-là. Je dis merci Seigneur parce que nous sommes dans cette communauté, c'est par là que je termine. Mais il y a des hommes et des femmes depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans qui ont investi ici. Et c'est pour cela que nous pouvons trouver une assemblée où nous pouvons accueillir tous ceux qui cherchent Dieu. Parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont donné de l'argent. Moi, Serge Oulahi, pasteur de cette église, je suis payé par cette communauté. Si demain cette communauté ne peut pas me payer, on avisera. Mais c'est parce que je suis payé par cette communauté que je peux être engagé avec cette communauté. Nos églises ont besoin des uns et des autres pour que l'œuvre de Dieu continue d'avancer. Il y a une jeune adulte à qui qu'on a accompagné avec le conseil, avec qui j'ai fait un accompagnement. Elle dit, mais pasteur, merci parce que tu as du temps pour nous. J'ai dit, tu sais, il faut dire merci à l'église. Si j'ai du temps, c'est parce que c'est une église qui m'a engagé et qui me donne un soutien, et qui me permet d'avoir du temps pour accompagner, pour évangéliser, pour édifier, pour encadrer des personnes humaines. Si il n'y avait pas ce soutien, peut-être que je n'aurais pas eu le même temps que je peux avoir là maintenant, pour m'engager. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Cette salle, oui, nous l'avons pour l'instant gracieusement, mais jusqu'à quand? Il va nous falloir un jour bouger, avoir nos propres locaux, s'en occuper un peu. Qui va le faire? C'est nous qui allons le faire. Parfois, je critique personne, mais et je ne parle pas de tous ceux qui sont partis là-bas, mais je parle de quelques personnes. Certains rejoignent des grandes églises qui ont leurs bâtiments et qui sont pimpants neufs avec des services. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est des hommes et des femmes qui ont donné de l'argent pour ça. Et que même ces bâtiments ont besoin de beaucoup d'argent pour être entretenus. Et c'est encore des hommes et des femmes qui donnent de l'argent pour qu'ils soient entretenus. Et nous, nos petites communautés, parfois on vivote parce qu'on n'aime pas mettre l'argent devant les choses. Bien-aimés, aidez-nous à faire vivre l'Église de Dieu. C'est ici que nous voulons servir notre Dieu. Nous voulons donner l'opportunité aux hommes, aux femmes qui cherchent Dieu de rentrer dans cette salle et d'entendre la prédication. Nous voulons donner l'opportunité aux chrétiens, aux chrétiennes de grandir dans la foi. Nous voulons vivre la communion ensemble pour rester forts. Nous voulons que nos enfants, l'autre côté, nous sommes parfois tristes parce que nos enfants ne sont pas dans les conditions. La salle qu'ils ont n'est pas une salle. Les monitrices auraient voulu avoir deux salles différentes pour les tout petits, pour les plus grands, mais elles font avec ce qu'elles ont. Je suis triste parce que mes adolescents sont obligés d'être occultes avec nous. Si on avait une salle, ils auraient eu un cours spécial pour adolescents à côté. Aidez-nous à faire l'œuvre de Dieu. Aidez-nous à servir Dieu. Motivons-nous à servir Dieu ensemble. Vas-y pour la dernière diapo. La toute dernière, vas-y encore à la fin. Voilà. Comment être reconnaissant à Dieu pour le salut par grâce? La Bible dit que nous n'avons rien acheté. Dieu nous a fait grâce de ce salut, bien-aimé. Comment répondre à cette grâce? C'est en servant Dieu. Avoir cette capacité particulière que Dieu accorde de discerner, d'accomplir la tâche pour laquelle il nous a. C'est pour ça que j'ai dit à Manuela, cette fois-ci, tu présenteras le livre avant la prédication pour que je montre des exemples de service dans l'Église. Elle a ça à cœur, le fait, pour nous encourager. J'ai parlé de Patricia, j'ai cité plein de personnes qui servent. Et nous sommes là tous pour servir. Mais n'oubliez pas, aimer le Seigneur, servir Dieu et son prochain, c'est s'engager de façon ou d'une autre à vivre l'Église et à faire vivre l'Église d'abord dans nos familles. D'abord dans nos familles. Si vous êtes en couple, servir Dieu, c'est aimer votre mari, aimer votre femme, aimer vos enfants. Prenez soin de ceux que Dieu vous confie. Prenez soin de ceux que Dieu vous confie. Prenez soin. Moi, en tant que pasteur, l'Épître aux Hébreux dit, dans ce même chapitre, qu'un jour, j'aurai à rendre compte de chaque chrétien que Dieu m'a donné. J'ai dit, oula, Seigneur, c'est lourd ça. Mais comme je sais que c'est Jésus qui est le bon berger, que je suis un petit délégué à côté de lui, ça me rassure. Parce que c'est lui qui fait le travail, finalement. Mais c'est pareil pour nos époux, c'est pareil pour nos époux, c'est pareil pour nos enfants. Faisons en sorte que nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, j'ai tout fait. J'ai aimé mes enfants, j'ai aimé mon mari, je les ai servis avec l'amour que tu as mis dans mon cœur. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Merci à notre Seigneur pour ce temps de message. Eric m'a demandé qu'on puisse interpréter ce chant, mais je vais vous le lire, parce que comme on ne l'a pas préparé, Eric, pardonne-moi. Et c'est le chant qui dit « Tu es venu jusqu'à nous ». Je vais vous le lire pour que nous puissions entendre les paroles de ce chant. Et nous allons entonner ce dernier chant, la trompette sonne. Jésus revient bientôt. Alors, pour faire écho à ce que le pasteur a dit, que nous puissions nous engager avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Je vais vous lire ce chant, « Tu es venu jusqu'à nous ». Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi Serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi Serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis à Dieu dans ta peine, ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi Serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi Serviteur. Ce chant dit encore, voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent aux clous de la colère. Dieu Tout-Puissant, Roi Serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi Serviteur. Et la dernière strophe qui nous intéresse, tout le chant parle et parlant. Je vous invite d'ailleurs à l'écouter chez vous. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Roi Serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi Serviteur. Amen. Pardonne-moi, mon frère, on ne l'a pas interprété. Mais c'est un chant qui nous... Ce sont des paroles qui nous parlent. Et avant qu'il ne soit trop tard, engageons-nous. Nous avons entendu ce que Dieu nous dit ce matin. Engageons-nous auprès de nos familles d'abord, de nos enfants. Engageons-nous auprès de nos voisins. Ce sont nos prochains aussi, ceux qui sont derrière les portes. Nous ne connaissons pas leur vie, mais ils ont besoin de la grâce de Dieu. Engageons-nous à servir dans la communauté de Créteil, dans nos travails, dans notre cercle d'amis également. Engageons-nous à servir. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous. Et je vais inviter, sans plus attendre, Esther, Lovely. Merci à Willy et à Eric. Nous allons nous lever. Pour interpréter ce chant, la trompette sonne. Ensuite, je demanderai à Émeric de passer pour les offrandes. Et nous aurons notre prière finale, notre prière de bénédiction. Très fort, bien aimé. Il nous invite à nous considérer tous sur le même niveau, parce que la grâce de Dieu coule sur nous. Et avant qu'il ne soit trop tard, bien aimé, interpellons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Ça a été notre groupe de famille, à prier sans cesse, prier les uns pour les autres, en toutes circonstances. Un jour, la trompette va sonner. Et ceux qui auront combattu le bon combat de la foi partiront. Quel désespoir pour ceux qui vont rester. Alors que nous n'ayons même pas cette tristesse de dire « mon mari va rester » ou « peu importe, c'est Dieu qui décide ». Mais nous, avant que la trompette ne sonne, faisons tout notre travail, engageons-nous pour servir ce Dieu merveilleux qui est Jésus-Christ.
Sur notre pays, rassemblez-vous, mes enfants. La trompette sonne. Sur notre pays, rassemblez-vous pour prier ensemble, pour chercher ma face, implorer ma
Bien-aimé, asseyez-vous. C'est un avertissement, bien-aimé. Mais nous n'avons pas à craindre. Le jour où la trompette va sonner, confions-nous en Jésus-Christ maintenant. Confions-nous en Jésus-Christ maintenant. Choisissons la meilleure des places, la meilleure des parts. Il n'y a pas 36 chemins, il y en a deux. Celui qui mène à Jésus-Christ. Celui qui mène à la perdition éternelle. N'est-ce pas? Les jeunes de la famille Tambo, les jeunes de la famille Missoua, merci mes sœurs. Nos conjoints qui ne sont pas à Christ. Oh, nous avons des enfants, Raymond et moi. Tous, ils ont entendu parler. Ils ont entendu la parole de Dieu. Mais tous ne sont pas à Jésus-Christ. Et je suppose que c'est pareil pour vous. Mais si nous aimons notre prochain, œuvrons avec zèle et hardiesse avant que la porte de la grâce ne se ferme, bien-aimés. Parce que ceux qui auront combattu le bon combat de la foi, ils n'auront plus souvenir de ceux qui sont restés ici-bas. Mais terrible sera la vie pour ceux qui seront restés perdus sans Jésus-Christ. Pardonnez-moi, je pleure. Nous avons un Dieu rempli d'amour, mais il nous avertit. En ce 13 novembre 2022, si vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur. Quand vous allez rentrer chez vous, dites à ceux qui sont là que vous les aimez. Oh, merci, Ras. Je t'aime, mon frère. Merci. Dites à ceux qui vous entourent, que puis-je faire pour toi? Assaisonnons nos paroles avec beaucoup d'amour, parce que la trompette va sonner. Amen. Oh, Seigneur, viens nous en aide en ce matin. Examine nos cœurs. Examine notre âme qui fait les soucis, les problèmes de la vie, oui, qui nous empêchent de te dire merci de nos cœurs reconnaissants, qui nous empêchent de dire à autrui que nous l'aimons, tellement nous sommes centrés sur nous-mêmes. Fais grâce en ce matin. Fais grâce et aide-nous à comprendre la mission que tu nous as confiée. Nous engager pour te plaire avant toute chose et te servir pour la gloire de ton nom. Amen.